Comme tous les lundis, on va retrouver les conversations avec Daniel Habert et il revient cette semaine au micro de Blaise van der Linden sur la situation en Iran et ses conséquences pour Israël.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka ce matin. Alors Daniel, évidemment, dans nos conversations de cette semaine, on va aborder la situation en Iran. Maintenant, voilà un peu plus de deux semaines que des manifestations secouent le régime islamique. Question relativement concrète, Daniel, est-ce la fin de cette république islamique, de ce régime des mollahs?
Oui, c'est le début de la fin. Le régime est condamné. Tout simplement parce qu'en presque un demi-siècle, il a échoué à tenir ses promesses. Je rappelle ses promesses, détruire Israël, expulser les Américains du Moyen-Orient, reconstruire un califat, imposer la charia d'abord au Moyen-Orient, puis dans le monde. Pour y arriver, il a détourné l'essentiel des ressources du pays. Pétrole, d'abord parce que les ressources, et en plus les ressources ont beaucoup diminué sous l'effet et des sanctions et du fait que le marché du pétrole n'est pas très porteur, donc dans des ressources limitées, ils ont consacré de plus en plus de pourcentage à ces objectifs que je viens de décrire. Donc pour réaliser ces objectifs, les moyens, c'était créer une armée loyale au guide suprême, c'est ces fameux gardiens de la révolution, 150 000 qu'il faut équiper, nourrir chaque jour, et à qui on a donné les clés d'une grande partie de l'économie iranienne, le BTP, les transports, les ports, les aéroports, les communications, tout ce qui était essentiel. Évidemment, dépenser de l'argent pour produire une bombe atomique, concevoir et produire des missiles de grande précision et des drones aussi qui sont parmi les meilleurs puisqu'ils les livrent aux Russes, et puis finalement entretenir plusieurs milices extrêmement nombreuses tout autour d'Israël, dans ce fameux axe de la résistance qui n'a pas résisté. Donc tout ça a appauvri une population de 85 millions d'habitants de haut niveau de civilisation, parce que ils ont imposé la racharia en fait à un pays qui était en voie de, sous le chat, de modernisation. Donc voilà, tout ça pour aucun résultat. Et donc la révolte, elle est ancienne. Elle a commencé par les femmes et aujourd'hui, elle touche tout le monde. Donc oui, le régime est condamné.
Alors, il est vacillant, hein, ce régime. On a beaucoup entendu parler de la date du 16 janvier, c'était donc vendredi, car au début de l'année 1979, le 16 janvier 1979, c'était justement le début de ce régime des mollahs et l'exil du Shah. Ça ne s'est pas passé. Quand cela pourrait-il se passer selon vous, Daniel?
Alors la question, c'est une bonne question, quand, mais en fait, ça dépend du comment. C'est ça qui va déterminer le quand. Le comment, au fond, si on essaie de résumer, c'est que les Occidentaux et surtout les Américains ont tiré des leçons des interventions du passé, notamment en Irak, en Afghanistan et en Libye dans les années 2000. Et donc, on voit que dans la gestion, par exemple, de la question vénézuélienne, une autre dictature, alors non pas islamique mais bolivarienne, l'approche a été de capturer le guide suprême, Maduro. Je rappelle qu'en en allemand, le guide, c'est Führer. qui sont des figures adulées, c'était vrai du temps de Chavez, beaucoup moins du temps de Maduro, et c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui de Khamenei que cela fut de Khomeini, qui lui aussi a été adulé par le peuple. Donc la question, c'est: est-ce que les Américains vont faire à l'Irakienne, faire détruire le pays, installer un gouverneur, et on a vu ce qui est sorti de l'affaire irakienne, c'est malheureusement Daesh, ou à la vénézuélienne, c'est-à-dire qu'en faisant tomber les ayatollahs, le guide suprême et son truc, et en essayant de trouver une solution avec ce qui reste du gouvernement iranien, comme on est en train de faire avec ce qui reste du gouvernement vénézuélien. Donc, on voit bien qu'entre ces deux options, les Américains ont hésité, mais ils se sont fait convaincre et par Israël et par les États arabes qu'il fallait choisir l'option vénézuélienne. Parce que il y a une crainte, une peur de voir un régime mis dans un coin, perdant, utiliser ce qui lui reste de capacité destructrice, il en reste beaucoup, pour lancer des missiles sur les installations pétrolières saoudiennes et émiraties, sur Israël. Et relancer aussi le terrorisme un peu partout, y compris aux États-Unis. Donc il y a une peur de tous les alliés américains d'une action trop violente. Et donc je pense que ce qui est en gestation aujourd'hui, c'est une solution qui ne soit pas à l'irakienne, c'est-à-dire une destruction totale par bombardement de l'Iran. L'idée, je pense, c'est de continuer le pays à s'affaiblir de l'intérieur. Alors ça, évidemment, le peuple iranien paye un prix élevé pour ça. Et ils sont en train, évidemment, de négocier un certain nombre de choses, comme avec les successeurs de Maduro, on essaie de parler avec ceux qui restent, c'est-à-dire les gardiens de la révolution. On pense qu'il y a des gens qui sont prêts à trahir. Le président, qui est issu des gardiens de la révolution, Pezeshkan, mais qui est peut-être qu'on appelle modéré, l'Assemblée nationale, puis l'armée régulière. Donc il y a beaucoup de possibilité de négocier. Et puis il y a aussi une négociation avec la résistance intérieure iranienne qui, elle, a du mal à se déployer parce qu'elle est sous haute surveillance. Et puis il reste cette résistance extérieure qui est malheureusement restée très longtemps à l'étranger, en dehors de l'Iran. La plupart ne sont pas nés en Iran, et qui sont divisés entre eux, avec la figure emblématique du fils du Shah qui est un facteur d'unité qu'on met en avant. Et puis il y a ce bonus dont on entend parler, c'est-à-dire la surprise du Mossad, comme il y a eu avec le Hezbollah, les pagers. On entend certains responsables dire que Israël a en stock quelque chose d'inattendu, etc. Alors voilà, tout ça, c'est le paysage du comment qui va dicter le quand.
La chaîne Cannes rapporte ce week-end que plutôt qu'une action ciblée, Israël souhaiterait que les États-Unis préparent une frappe de grande ampleur contre l'Iran. Quelle est la position de l'État hébreu sur ce qui se passe justement en Iran?
Je pense qu'Israël est beaucoup plus modéré que ce que vous venez de citer, parce qu'ils seraient les premières victimes, et au fond ils savent que ça ne changerait pas grand-chose. En tout cas pour Israël, l'Iran c'est l'ennemi numéro un, c'est un ennemi donc implacable. C'est lui qui a déclenché la guerre de 2 ans qu'Israël vient de subir, même si elle a été déclenchée officiellement par le Hamas. C'est l'Iran qui a tout orchestré. Donc il n'y a pas d'hésitation pour Israël. Il faut que ce régime disparaisse. Mais au fond, ils savent bien que la politique de détruire un pays est presque impossible. Donc il est préférable d'essayer de le contenir et de surveiller tout ce qui se passe, comme il le fait en ce moment, frapper éventuellement des sites militaires, par exemple, des reconstructions de missiles, etc. Donc, en fait, je pense que Israël et les Américains sont en liaison permanente. Je pense qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils cherchent l'efficacité, la vigilance. Il n'y a pas vraiment de comment dire de théorie sur l'action à entreprendre. C'est plutôt ce qui sera le plus efficace, et je pense que ce sera une recherche un peu plus lente que prévu, quoi.
Oui, Daniel Haber, il nous reste une toute petite minute. Quelles sont les perspectives des prochaines semaines, des prochains mois?
Justement, dans le cadre de cette lenteur, alors, hélas, celui qui va payer le prix de cette lenteur, c'est le peuple iranien. Mais bon, que le peuple iranien, il a quand même fait une faute majeure dans son existence, c'est d'acclamer Khomeini en 79 et de chasser le Shah. Il paye aujourd'hui très lourdement le prix de cette erreur initiale. Je pense que c'est pas seulement l'avenir de l'Iran qui est calculé aujourd'hui, c'est tout l'avenir du Moyen-Orient. Je crois que si on regarde par exemple l'exemple de la Turquie, qui est un pays hostile à Israël aujourd'hui, qui est islamiste aussi, proche des frères musulmans, mais qui n'agit pas comme l'Iran, comme un danger pour l'Occident dans son ensemble. Au contraire, il est proche des Américains. On peut imaginer, c'est de construire un Iran qui resterait peut-être un régime islamique, mais qui ne chercherait pas à détruire tout son environnement, mais au contraire à redonner de la prospérité à son peuple. Et donc, la meilleure façon de mettre un peu à l'écart ces dangers pour la paix, c'est de construire ce que prévoit le plan de paix de Trump, hein, celui d'octobre 2025, qui est de réunir les forces israéliennes et les forces des États arabes, des monarchies et des dictatures égyptiennes ensemble face à ces deux ennemis et faire en sorte qu'on trouve une sorte d'équilibre une dissuasion, un équilibre des puissances qui fait que sans être dans une situation de paix harmonieuse, on serait dans une situation de non-guerre qui peut suffire à Israël pour poursuivre sa marche vers la prospérité. Voilà tout ce qu'on peut espérer de mieux dans les semaines et mois qui viennent.
Et on aura évidemment l'occasion d'en parler dans nos conversations. Merci beaucoup, Daniel Habert, d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine, au revoir.